Vous écoutez France Culture. Aujourd'hui, jeudi, la marche des sciences par Aurélie Luneau.
J'ai lu dans une revue, je ne sais plus trop laquelle, enfin, une chose qui était même très inquiétante. On expliquait, on disait que le soleil disparaîtrait. Bien sûr, il ne s'agit pas de demain ou d'après-demain, peut-être dans des millions ou des milliards d'années. Mais en fait, c'est une chose que j'ignorais, bien sûr. Je ne sais pas si j'y crois vraiment, d'ailleurs, parce que ça semble tellement ahurissant. Mais en y réfléchissant, évidemment, il y a une inquiétude énorme qui vous prend. On se dit, c'est pas pour moi, c'est pas non plus pour mes enfants. Mais enfin, tout de même, c'est tout de même excessivement inquiétant. Et est-ce que quelqu'un pourrait me dire exactement ce qu'il en est ?
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, c'est la Marche des Sciences. En période de tension, de guerre ou de crise, les peurs ancestrales ressurgissent, les angoisses prennent le pas sur la raison et les pires craintes font leur chemin dans l'esprit de certains de nos concitoyens. À l'image de cette auditrice qui, en mars 1977, dans les après-midi de France Culture, s'inquiétait de l'annonce de la mort du soleil, il suffit souvent d'un article, d'un reportage, d'un site internet ou d'un film, comme le dernier de Roland Emmerich, par exemple, intitulé 2012, pour alimenter ce terreau fertile des scénarii de fin du monde. Alors pourquoi ce thème nous fascine tant depuis des millénaires ? Comment la science est-elle positionnée par rapport aux projections catastrophistes ? Quel rôle ont joué les scientifiques dans cette quête du savoir ? Des catastrophistes aux uniformistes, que nous apprennent aussi les extinctions de masse survenues tout au long de l'histoire du monde ? Ce sont là quelques-unes des questions que nous soulèverons avec nos deux invités. Fabrice Mottez, astrophysicien au laboratoire Univers et Théorie de l'Observatoire de Paris-Meudon. Il est l'auteur avec Didier Jamais du livre 2012, Scénario pour une fin du monde, un livre paru chez Belin à l'automne 2009. Et puis nous sommes en compagnie de Claude Babin, professeur émérite des universités et président honoraire de l'Université Bretagne Occidentale. Lui est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Autour du catastrophisme », un ouvrage édité chez Vuibert en 2007. Et Claude Babin est en duplex du studio de Radio France à Lyon. Et avec nous, autour de cette table, également le comédien Emmanuel Lemire. Et en seconde partie d'émission vers 14h48, nous recevrons Jacques Glowinski. Il est professeur et administrateur du Collège de France. C'est un des pères de la neuropharmacologie et un des pères d'une toute nouvelle collection de DVD intitulée « La mémoire du Collège de France ». Les quatre premiers numéros sont sortis en kiosque il y a deux jours. Quatre DVD et quatre éminents scientifiques qui racontent leur parcours. Jacqueline de Romilly, François Jacob, Pierre-Gilles Dejeanne et Pierre Boulez. On en parle tout à l'heure, mais pour l'instant, destination, fin du monde.
Malheur à vous qui contemplerez cette journée-là, car une immense nuit, l'espace infini recouvrira du levant du soleil au couchant et du midi au nord, et un immense fleuve de feu, brûlant encore, s'écroulera des hauteurs du ciel et dévastera tous les lieux, et la terre, et l'immense océan, et la mer bleue, et les lacs et les fleuves, et les sources, et le sombre pays des morts, et le pôle céleste. Et dans le ciel, les astres encore se rejoindront et s'uniront dans l'immense forme vide de l'éther. Partout du ciel, des étoiles tomberont dans la mer et toutes les races humaines claqueront des dents. Elles brûleront dans le fleuve et dans le soufre et dans le feu plein d'élan qui fera flamber sous eux le sol et la cendre recouvrira l'univers.
Et la cendre recouvrira l'univers. Bonjour Fabrice Mottez. Ce texte, est-ce que à tout hasard vous l'avez reconnu ? Un texte, je précise, extrait des archives de l'INA que j'ai retrouvé, donc un texte lu en 1951 pour la radiodiffusion française.
Absolument pas.
C'est en fait extrait de l'Apocalypse de Saint-Jean, donc un texte mythique par rapport à ces scénarios de fin du monde. Donc vous avez écrit ce livre 2012, Scénario pour une fin du monde, écrit avec Didier Jamais, un livre sorti il y a quelques mois, hein, c'était à la toute fin de l'année 2009. Alors dites-nous concrètement pourquoi ce livre ?
Alors, avec Didier Jamais, nous animons un site web d'astronomie, d'actualité de l'astronomie, et nous répondons à des questions que nous posent les auditeurs. Dans l'année passée, puis l'année d'avant, nous avons reçu beaucoup de questions nous demandant « Mais qu'est-ce qui va se passer vraiment en 2012 ?» Alors au début, on ne voyait pas trop de quoi ces gens-là parlaient. Et puis on a compris qu'il y avait une idée qui circulait, qu'il y aurait la fin du monde en 2012. Alors on a un petit peu été voir. Au passage, j'ai vu qu'il y avait d'autres fins du monde prédites. Il y en a en 2014, 2019, etc. Donc on a pris un petit peu les choses à la légère. Mais les questions venaient beaucoup. Et puis alors donc on s'est rendu compte qu'il y avait certaines idées à propos d'un calendrier maya, des résurgences d'idées qui avaient déjà apparu, comme la planète Nibiru, la planète X, etc. Quand nous avons appris que Roland Emmerich allait faire un film précisément sur ce thème-là, nous nous sommes dit que ce n'est pas des dizaines de questions par semaine qu'il y aurait, mais beaucoup plus, et que ça valait le coup.
Et que ça allait déborder le site, pour le coup, et qu'il fallait peut-être faire œuvre d'historien et de spécialiste. Bonjour Claude Babin, je me tourne vers vous. Vous êtes en duplex depuis Radio France à Lyon.
Oui.
Vous-même, vous êtes intéressé aux mythes et légendes qui entourent le catastrophisme. Et vous le dites dans votre livre, finalement, il y a eu retour en force de ce vocabulaire depuis le 11 septembre 2001. Ou même avant ?
Avant, en 1980, beaucoup, parce qu'il y a eu là, au point de vue des géologues et des paléontologues, un événement assez important qui a permis d'essayer de comprendre, de penser comprendre, la grande extinction des dinosaures à la fin du Crétacé, à la fin de l'ère secondaire. Et là, on a pensé que cela devait résulter d'une météorite avec la Terre.
Et on va en parler dans cette émission. Donc, expliquez-nous tous les deux, Fabrice Mottès, vous pouvez commencer, donnez-nous une définition, parce que c'est un peu facile de parler de fin du monde et de catastrophisme. Comment on définit ça, scientifiquement ?
Alors justement, c'est bien le problème. Il n'y a pas de définition scientifique du mot fin du monde. D'ailleurs, quand je fais des conférences et qu'on me pose parfois des questions sur les Mayas, j'ai au préalable expliqué que les Mayas ne prédisaient pas... qu'on ne pouvait pas tellement s'appuyer sur les prédictions mayas pour prévoir un grand malheur en 2012. Et des gens me disaient « Oui, mais c'est peut-être simplement un changement important qui va se dérouler dans la vie des gens, etc. » En fait, on est dans le vague absolu. Pareil, récemment, avec le tremblement de terre à Haïti qui a été dramatique, on a reçu à nouveau des questions sur la fin du monde. Ça, ce sont malheureusement des événements qui font partie du cours normal des choses. Ce n'est pas le cours heureux des choses, mais c'est quelque chose qui se produit d'une façon un petit peu... pas régulière, mais enfin souvent, quoi. Avec Didier Jamais, quand nous avons décidé de traiter du sujet des fins du monde... nous avons essayé de faire une petite... on s'est donné trois définitions différentes. Quelque chose qui mettrait fin à l'homme, quelque chose qui mettrait fin à la vie sur Terre, et puis enfin la possibilité que la vie ne soit plus possible dans l'univers. Voilà, mais ça n'est pas vraiment scientifique, c'est juste pour mettre un petit peu des choses au clair.
Claude Babin, vous, c'est plus autour du terme catastrophisme que vous avez travaillé. C'est un terme qui dit autre chose et qu'il faut conserver en l'état. Ou finalement, il ne vaut pas mieux parler d'événements peut-être pour éviter tout affolement ?
Ah, très certainement. Le terme de catastrophisme a une connotation tout à fait... particulière, parce que je pense que la plupart des humains, lorsqu'ils pensent à la catastrophe pour l'humanité, pour les humains. Dans le sens des géologues et des paléontologues, se veut quelque chose au contraire d'ayant un impact planétaire. Donc, c'est quelque chose, vous voyez, cette notion de catastrophisme, quelque chose qui est extrêmement variable en fonction des locuteurs, et je pense qu'il faut l'abandonner. Il faut préférer événements, parce que des événements, en science de la science de la Terre, dans la géobiosphère, les événements, ce sont des choses qui sont catalogables, qui sont répertoriables, qui sont étudiables, tandis que le terme de catastrophe, je le répète, a une connotation très particulière.
Et donc des notions qui ont toujours flirté avec des terrains mouvants, comme
absolument.
L'ésotérisme, la science du complot, l'imaginaire collectif, finalement.
Absolument. Bien sûr, les mythes et les religions, d'ailleurs, ont toujours entretenu cette notion de catastrophe. Ce que l'on voit avec le déluge, par exemple, dans les Écritures, ça. Donc je suis tout à fait d'accord avec les conceptions que vient de présenter
notre Fabrice Mothèse,
avec cette notion de trois termes, de trois acceptions très différentes pour ces catastrophes, ce qui est disparition de la vie, ce qui est fin du monde. Je pense que lorsqu'on parle de fin du monde, pour la plupart des humains, c'est la fin de l'humanité. Je présume, hein, que c'est ça qui est ressenti plus souvent. Et plutôt que celui de la fin de la vie ou que celui de la fin de l'univers, quasiment.
Alors, au commencement de ces scénarios catastrophes, finalement, il y avait quoi ? Ou il y a quoi, Fabrice Mothèse ? Est-ce que, il faut véritablement tout faire partir de ce calendrier Maya ? Et donnez-nous quelques clés pour comprendre pourquoi on parle de ce calendrier Maya 2012.
Alors, le calendrier Maya, c'est la nouveauté, si je puis dire. Et puisque, comme je le disais tout à l'heure, des fins du monde, on en a déjà annoncé beaucoup. En 1716, par exemple, il y en avait une qui était annoncée par l'évêque de Worcester. Newton avait fait des petits calculs aussi. Bon, enfin bref.
C'est intéressant de le dire. Newton qui avait griffonné des dates possibles de fin du monde et notamment une date possible en 2060.
Voilà.
Ça nous concerne quand même un petit peu.
Voilà. En fait, les gens qui ont étudié ces notes ne sont pas sûrs qu'ils y croyaient.
Oui.
Il semblerait plutôt que c'était pour repousser le projet à... Enfin, le problème à une date très lointaine qui permettait de ne plus en discuter. Mais ce sont des hypothèses, tout ça. Hein.
Oui, oui. Et donc, ce calendrier Maya. Maya, alors ?
Alors, il se trouve qu'on a découvert une stèle Maya qui porte un calendrier cyclique. Il est d'ailleurs sculpté sur un cercle. Et ces cycles correspondent à ce que les Mayas appelaient le compte long et qui correspond à un cycle de 5124 ans, quelque chose comme ça. Et d'après certains américanistes, le changement de cycle prochain, ça veut dire le cinquième en fait, se produirait en 2012. Alors, ce sont toujours, en fait, ces changements de cycle seraient dus à des changements de soleil. Et là, le soleil, actuellement le soleil de feu, piquerait une grande colère. Et donc, il y aurait des tempêtes solaires épouvantables qui mettraient fin au monde. Alors là encore, le terme est spécialement vague.
Si ce n'est que finalement, ce phénomène autour du Soleil que l'on avait prédit justement à partir de 2009 jusqu'à 2011-2012 ne se produit pas. Aujourd'hui, les scientifiques se rendent compte que non, le Soleil n'est pas en surchauffe et ne produit pas ce phénomène. Donc ça remet en question la prédiction Maya.
Alors le Soleil a des cycles réellement.
Ah,
ces
oui.
cycles sont beaucoup plus courts puisqu'ils durent 11 ans. Et ils ne sont pas des cycles... qui nous affectent dans notre vie quotidienne, mais par contre, les astronomes les observent depuis le XVIIe siècle et les enregistrent depuis le XVIIe siècle. Donc c'est un cycle assez régulier et le cycle qui devrait culminer vers 2012 tarde à venir, on l'attend. C'est ce qui est un petit peu amusant par rapport à ces prédictions terribles. Alors en fait, cette prédiction Maya s'enrichit d'idées qui sont dans l'air, qui sont des vraies idées scientifiques. C'est vrai qu'actuellement, il y a des discussions quand même très très sérieuses sur le climat, tout le monde le sait, et le rôle de l'activité solaire fait partie du débat et de la polémique. Par ailleurs, les agences spatiales développent ce qu'ils appellent la météo spatiale. En fait, c'est justement une tentative de prédire l'activité du Soleil et des sortes de tempêtes qui durent quelques jours et qui sont dommageables aux télécommunications, aux satellites. Et les gens qui surfent sur cette rumeur ont un petit peu fait un amalgame avec tout ça. Et voilà.
En tout cas, selon vous, en tant qu'astrophysicien, 2012
Ben pour moi, 2012...
On n'a rien à craindre, a priori.
Non, je ne dirais pas qu'on n'a rien à craindre. Ah. Je dirais que nous n'avons pas plus à craindre que les autres années. Ça veut dire très peu.
C'est plus mesuré, on sent que vous êtes bien un scientifique. Claude Babin, donc à partir de là, donc c'est vrai qu'on a évoqué la figure d'Isaac Newton, mais auparavant, finalement, on peut dire que c'est à partir du XVIIIe siècle que des naturalistes vont commencer à se poser cette question de fin du monde, enfin, ou de fin des espèces, de disparition d'animaux en analysant des fossiles. Mais là, il y a un problème, les strates géologiques qui vont faire mentir la religion. C'est dans cette époque-là, on a deux choses, c'est-à-dire la croyance dans le déluge, hein, les textes bibliques, et puis d'un autre côté, on commence à avancer sur le terrain et on se rend compte que là, les écritures ne tiennent plus face à l'expertise scientifique.
Oui, c'est très compliqué en réalité parce que beaucoup de ces gens-là, au XVIIIe, au XVIIe siècle même déjà, sont bien évidemment des gens très croyants, pour lesquels les Saintes Écritures contiennent la vérité. Donc la plupart d'entre eux croient au déluge. Et en même temps, ils vont se rendre compte qu'il y a eu assez de disparitions d'organismes vivants d'autrefois, puisque les fossiles dans les strates géologiques en sont la preuve. Donc ils vont pendant un certain temps tenter d'associer, de faire coïncider les deux choses. Ce sera même le cas encore, je pense, de Cuvier un certain temps. Ils vont donc considérer que le déluge est la cause majeure de la disparition des plantes et des animaux qui avaient vécu auparavant. Et puis les choses vont se compliquer, bien sûr, lorsqu'on s'apercevra qu'en réalité, il n'y a pas une seule disparition, mais plusieurs disparitions successives dans l'histoire de la Terre. Et Cuvier pourra ainsi parler de plusieurs catastrophes, il préférera le mot de révolution, des grands changements de la Terre qui entraînent des grands changements dans l'histoire de la vie, avec des groupes entiers qui disparaissent et d'autres qui y sont créés en quelque sorte.
Eh bien, vous avez parlé de Georges Cuvier, je vous propose d'en écouter un texte de ce paléontologue et géologue, extrait des discours préliminaires recherche sur les ossements fossiles de quadrupèdes, et c'est daté de 1812.
Ces irruptions, ces retraites répétées n'ont point été lentes, ne se sont point faites par degrés. La plupart des catastrophes qui les ont amenées ont été subites. Et cela est surtout facile à prouver pour la dernière de toutes, celle dont les traces sont le plus à découvert. Elle a laissé encore dans les pays du Nord des cadavres de grands quadrupèdes que la glace a saisis et qui se sont conservés jusqu'à nos jours avec leur peau, leurs poils et leur chair. S'ils n'eussent été gelés aussitôt que tués, la putréfaction les aurait décomposés. Or, cette gelée éternelle n'a pu s'emparer des lieux où ces animaux vivaient que par la même cause qui les a détruits. Cette cause a donc été subite, comme son effet. Les déchirements, les bouleversements de couches, arrivés dans les catastrophes antérieures, montrent assez qu'elles étaient subites et violentes, comme la dernière. Et des amas de débris et de cailloux roulés, placés en plusieurs endroits entre les couches solides, atteste la force des mouvements que ces bouleversements excitaient dans la masse des eaux. La vie a donc souvent été troublée sur cette terre par des événements terribles, calamités qui, dans les commencements, ont peut-être remué dans une grande épaisseur l'enveloppe entière de la planète, mais qui depuis sont toujours devenues moins profondes et moins générales.
Voilà ce texte de Georges Cuvier. Claude Babin, vous en parlez grandement dans votre ouvrage intitulé « Autour du catastrophisme », parce que c'est un homme qui a compté dans cette évolution des positions scientifiques. Il faut rappeler qu'il est auteur d'une œuvre magistrale intitulée « Discours sur les révolutions de la surface du globe et sur les changements qu'elles ont produits dans le règne animal ». Donc c'est le début des sciences de la Terre et donc on se pose ces questions, à savoir est-ce que la Terre a évolué graduellement ou brutalement, c'est ça ?
Bien évidemment, c'est une question qui s'est longtemps posée, qu'on ne se pose plus réellement, mais enfin, il y a quand même aujourd'hui des discussions entre catastrophistes et uniformitaristes, comme l'on dit, mais concernant essentiellement l'histoire de la vie plutôt que celle de la Terre. On est maintenant tous, bien sûr, persuadés que cette histoire a été très progressive et on est en mesure, avec les astrophysiciens notamment aussi, de reconstituer les débuts de l'univers et de l'histoire de la Terre dans tout cela. Pour ce qui concerne Cuvier, puisque le texte que l'on vient de lire le démontre assez clairement, je crois, on constate de là qu'il envisageait plusieurs révolutions dans l'histoire de la Terre et de la vie et que c'est la dernière, finalement, qui a été la plus marquante, la plus importante, sans doute, et l'on peut penser que celle-ci, dans son esprit, était associée au déluge. Encore que les histoires sur les croyances de Cuvier divergent assez suivant les auteurs. Pour certains, c'était quelqu'un de très croyant et pour d'autres, pas du tout. Donc là, je m'avance un petit peu dans mon interprétation.
Donc c'est très difficile à cette époque-là de concilier les écritures, les conceptions scientifiques. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu la teneur des débats qui se déroulent ? Comment finalement on arrive à véritablement avancer sur ce terrain de la science ?
Je pense que ce sont surtout les observations des géologues et des paléontologues qui ont commencé à constituer des documentations importantes pour avancer, pour comprendre mieux ces problèmes, ces difficultés. Car auparavant, à la fin du XVIIe siècle notamment, il y avait déjà des histoires sur des inventions, des spéculations, ce qu'on appelait les théories de la Terre, sur ce qu'avait été l'histoire de la Terre. Mais ça restait extrêmement fumeux, c'était des choses qui étaient inspirées par des réflexions, disons, pseudo-philosophiques. Il n'y avait pas de données, de documentation. La documentation va réellement commencer avec les géologues, et pour l'histoire de la vie, bien sûr, avec les paléontologues, et parmi eux, spécialement avec Cuvier.
Mais on peut imaginer que les débats sont houleux. Si j'ai bien compris, il y a deux camps. Ceux qu'on appelle les catastrophistes et ceux qu'on appelle les uniformistes, c'est-à-dire...
Ça, c'est quelque chose qui va apparaître un peu plus tardivement peut-être, parce que pendant très longtemps, donc, les gens sont persuadés qu'il y a des grandes catastrophes à la suite de Cuvier et d'autres. Et puis, on va voir avec certains géologues, comme l'anglais Lyell, apparaître l'idée d'une conception, d'une histoire de la Terre qui peut s'expliquer tout simplement en observant les phénomènes actuels, comme l'on dit alors, les causes actuelles. Et on va tomber dans l'uniformitarisme, dans l'actualisme. Et c'est là seulement que vont commencer à s'opposer, de façon souvent extrêmement violente d'ailleurs, dans leurs propos et dans leurs écrits, ceux qui sont pour les causes actuelles, pour expliquer toute l'histoire de la Terre à partir de la compréhension de ce que l'on voit aujourd'hui, et pour ceux au contraire qui persistent à penser qu'il y a eu des grandes catastrophes qui ont modifié totalement l'écoulement de l'histoire de la Terre.
Mais alors par les causes actuelles, on entend quoi ?
Bon, on entend justement cette compréhension de l'histoire de la Terre en observant ce que l'on constate aujourd'hui autour de nous, les phénomènes de sédimentation, d'érosion, de tectogenèse, etc. On pense qu'en observant bien tout cela, en les comprenant, on peut reconstituer l'histoire de la Terre à travers les millénaires et les millions d'années que connaît cette histoire. Tandis que pour les catastrophistes, il y a en particulier de grandes révolutions qui marquent de temps en temps totalement un changement dans l'histoire du globe terrestre.
Fabrice Mottez, sur ce terrain donc des catastrophistes ou des uniformistes, ce Charles Lyell, qui était un géologue écossais, vous l'avez étudié, vous aussi, par rapport à ces scénarios.
Je ne l'ai pas étudié aussi bien que l'a fait Claude Babin, mais effectivement, je le mentionne dans le livre, il serait, paraît-il, à l'origine de la boutade le présent et la clé du passé, qui explique justement la méthode uniformitariste, pas forcément la doctrine, mais comme une méthode de travail, chercher dans ce qu'on voit à présent une explication aussi pour le passé.
Et alors, ce que vous expliquez, c'est que au fond, plus on avance dans cette connaissance, grâce aux travaux des géologues, des paléontologues, des hommes sur le terrain, on se rend compte qu'il peut y avoir quand même plusieurs causes possibles d'extinction des extinctions de masse. Elles peuvent être multiples. Le volcanisme intensif, des explosions d'étoiles voisines, des chutes d'astéroïdes ou de comètes. Comment finalement tout ça se met en place ? Qu'est-ce que ça provoque comme débat dans la société ou comme querelle ? Comment on arrive à ce constat finalement ?
Alors en fait déjà, effectivement, il y a ce problème de chercher des causes aux grandes transformations, de savoir si les causes elles-mêmes, si une transformation est brutale et se fait dans un bref laps de temps, si la cause, elle, est continue ou brève également. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement un problème en géologie, en histoire de la vie, c'est un problème aussi en physique. Par exemple, quand les physiciens étudient la turbulence, eh bien, on voit des phénomènes très brefs, parfois très violents, qui se déclenchent parce que le système s'organise à un certain moment, d'une certaine façon, pour les faire, mais en subissant, en fait, des contraintes qui, elles, sont absolument régulières. Donc, c'est un débat, en fait, très général dans les sciences et un débat toujours dans les sciences d'aujourd'hui. Voilà.
Un débat encore actuel.
Absolument. Mais, par exemple, les gens qui étudient la turbulence en physique, ou bien si on regarde aussi les phénomènes boursiers, on peut se poser la question... Si les crises sont déclenchées par des phénomènes qui sont continus, puis tout d'un coup, il y a une instabilité qui va faire que ça va craquer spontanément, ou est-ce qu'il y a eu un événement spécial qui va faire craquer ? Alors, en général, il y a une combinaison des deux. C'est ça, la réalité n'est pas simple. Par exemple, le 11 novembre a déclenché une crise boursière. Celle de 2007 semble s'être déclenchée toute seule. Voilà.
Claude Babin, oui. Par rapport à donc ces avancées, là, je disais qu'on se rend compte assez rapidement que les extinctions de masse ne sont pas si faciles à expliquer. Les causes peuvent être multiples. Comment on arrive à départager les opinions? On s'affronte sur ce terrain-là entre les tenants d'un volcanisme intensif et d'autres qui pensent que le danger vient du ciel.
En réalité, le débat demeure pour l'instant. Je pense que beaucoup de géologues et paléontologues se rangent à l'idée d'une conjonction de causes, très souvent pour les très grandes crises, comme celle qui a marqué notamment la fin de l'ère primaire du Paléozoïque, qu'on appelle souvent la crise permienne, où on estime que peut-être 90% des espèces auraient pu disparaître, ce qui est tout de même pas rien dans l'histoire de la vie. Alors là, on pense qu'il y a peut-être eu, pour expliquer une telle ampleur des choses, peut-être une conjonction de causes, à la fois du volcanisme, des grandes régressions et transgressions des océans, etc. Peut-être des variations climatiques importantes, dont on a des preuves. Peut-être aussi une chute de météorites ou autre chose, dont on n'a pas de preuves pour le Permien de façon extrêmement sûre. Mais il y a peut-être ainsi tout un ensemble de causes qui expliquent cela. Quoi qu'il en soit, le débat demeure, entre les spécialistes, le débat demeure notamment pour la prévalence pour la crise de la fin du Crétacé, avec la disparition des dinosaures en particulier, pour la prévalence soit de phénomènes volcaniques, c'est notamment chez nous Vincent Courtillot qui est un défenseur de cette thèse, soit la thèse de la chute de météorites, dont on pense tout de même qu'il y a des preuves extrêmement fortes, avec la reconnaissance d'un cratère là, dans la presqu'île du Yucatan, qui correspond à avec l'arche près, qui correspond tout à fait à cette grande crise.
Bah justement, pour prendre la mesure un petit peu de cette angoisse créée souvent par ce danger venu du ciel, comme les comètes par exemple, la plus célèbre étant celle de Halley, observée par l'anglais Edmund Halley, qui était né en 1656, je redonne les dates, mort en 1742, ça resitue toujours les choses. Eh bien, ces comètes sont souvent symboles de phénomènes de mauvais augure, comme le montre ce texte de Camille Flammarion. Camille Flammarion, je rappelle, était ce vulgarisateur en astronomie.
La tête de la comète sera à 26 millions de kilomètres de nous. Cet immense appendice pourra donc nous atteindre, nous envelopper, pendant plusieurs heures. Quelles seront les conséquences de cette rencontre, de cette immersion? Nous pouvons avouer que nous ignorons ce que le destin nous réserve pour le mois de juin prochain. L'empoisonnement de l'humanité par des gaz délétères n'est pas probable. Sans doute, si l'oxygène de l'atmosphère venait à se combiner avec l'hydrogène de la queue cométaire, ce serait l'étouffement général à bref délai. Si, au contraire, c'était une diminution de l'azote, une sensation inattendue de l'activité physique serait éprouvée par tous les cerveaux. Et la race périrait dans un paroxysme de joie, de délire et de folie universelle.
Texte de Camille Flammarion, écrit en 1910, Claude Babin. 1910, parce que c'est l'année au cours de laquelle la comète...
Exactement. Au mois de mai 1910. C'était en mai 1910. On raconte qu'il y a eu quelques suicides de gens qui étaient affolés à la suite des écritures de Camille Flammarion ou d'autres. En réalité, 1910, pour les Parisiens, ça ne fut pas rien, puisqu'en janvier, il y avait la grande inondation.
Et oui.
Et voilà qu'au mois de mai, il y avait cette crainte du choc avec la comète. Donc, ça fut une année difficile pour les Parisiens en particulier.
Alors, vous rappelez quand même que ces comètes, on retrouve des mentions dans l'histoire, et notamment selon des tablettes babyloniennes, on retrouve ces comètes mentionnées comme étant, alors soit de mauvais augure, en tout cas, étant source de phénomènes incompréhensibles et donc de frayeurs.
Il est sûr que c'est quelque chose qui a toujours marqué beaucoup les esprits, que tous ces phénomènes incompréhensibles, lumineux pour la plupart d'entre eux, qui se passaient dans le ciel. Donc il y avait toujours une sorte de hantise à l'égard du ciel qui avait tombé sur la tête. Le plus étonnant, ce fut bien évidemment de retrouver, d'observer des chutes de pierres, car c'était totalement incompréhensible. Et là aussi, les scientifiques se sont beaucoup partagés entre eux, comme je le racontais, je crois, quelque part dans mon ouvrage, entre eux, ceux qui disaient que c'est totalement impossible, y compris des gens comme Lavoisier, je crois, et puis d'autres qui ont été observés sur place et qui se sont rendus compte qu'il y avait effectivement des cailloux particuliers qui étaient tombés et qui avaient une structure aussi particulière qui n'était pas celle des roches habituelles de la Terre. Donc, vous voyez, là aussi, il y avait discussion entre scientifiques sur un phénomène qui paraissait totalement incompréhensible.
Donc, une communauté scientifique partagée en deux tendances, entre les catastrophistes et les optimistes. Et parmi les optimistes, on peut citer François Arago, qui écrivait en 1858 « Les comètes n'effraient plus guère, je le reconnais, c'est un résultat dont la science a certainement le droit de se féliciter. » Et là, on est à la moitié du 19e siècle, donc c'était tardif.
Oui, c'est intéressant comme optimisme, parce que je pense qu'aujourd'hui, les scientifiques sont moins optimistes. On a maintenant fait entrer beaucoup dans des réflexions des sciences, beaucoup tout ce qui est aléatoire, tout ce qui est contingent. Donc, on n'est plus en mesure, le plus souvent, dans la plupart des domaines, d'avoir une belle assurance, comme avait Arago, pour sa part. C'est très intéressant, ça aussi, parce que finalement, vous savez que ces dernières années même, en génétique, on voit la contingence pénétrée avec ce qu'ils appellent, je crois, aujourd'hui l'expression stochastique des gènes. C'est très récent, ça, il y a quelques années de cela seulement. Auparavant, il y avait un programme génétique qui allait être appliqué, il y avait une sorte de finalisme, finalement, dans la pensée des généticiens. Et maintenant, on fait une part beaucoup plus large à tout ce qui est contingent. Ça ne veut pas dire quelque chose qui n'est pas déterminé. Il y a un déterminisme au fond de tout cela. Mais on n'est pas en mesure de le saisir de façon précise.
Pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Mets dans ta valise une simple chemise, pour la fin du monde, pas de vêtements.
Et mes photographies,
laisse-les là.
Et ma boîte à outils,
laisse-la aussi, mon vieux, tant pis. Mais pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Laisse tes bijoux, tes machines à sous, pour la fin du monde, pas besoin d'argent.
Mon avion, mon képi,
laisse-les là.
Ma canne et mon fusil,
laisse-les aussi, mon vieux, tant pis. Mais pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. N'aie plus peur de rien, tout ira très bien, pour la fin du monde, viens tout simplement.
Il est 14h32 sur France Culture. Vous êtes en direct depuis le studio 167. Bienvenue dans la marche des sciences si vous nous rejoignez. On vous parle aujourd'hui des scénarios de fin du monde, mais vous l'aurez sûrement deviné avec cette chanson de Gérard Palapra, intitulée Pour la fin du monde, une chanson qui date de 1971. Alors nous sommes en compagnie aujourd'hui de Fabrice Mottez, astrophysicien au laboratoire Univers et Théorie de l'Observatoire de Paris-Meudon, auteur avec Didier Jamais d'un livre fascinant intitulé 2012, scénario pour une fin du monde, paru chez Belin à l'automne 2009. Et puis nous sommes également avec Claude Babin, professeur émérite des universités et président honoraire de l'Université Bretagne Occidentale. Claude Babin qui est l'auteur du livre intitulé « Autour du catastrophisme » paru chez Vuibert en 2007. Claude Babin est avec nous en duplex de nos studios de Radio France à Lyon. Alors ce danger venu du ciel, c'est aussi tous les phénomènes de ce qu'on appelle les astroblèmes. Alors dites-nous concrètement, Fabrice Mottez, les astroblèmes, c'est quoi ?
Alors les astroblèmes, ce sont des traces de collision de météorites ou de comètes ou de fragments de comètes avec la Terre. Alors en général, on s'attend à trouver un cratère. Mais il faut savoir que certaines collisions ne donnent pas lieu à un cratère, ce qui a beaucoup dérouté les gens jusqu'à assez récemment. Le dernier connu s'est produit en 1908. On pense maintenant que c'était un rocher d'une cinquantaine de mètres qui est arrivé, qui est tombé
en Sibérie occidentale, c'est ça ? Le 30 juin 1908, hein, j'avais noté ce phénomène qui avait marqué les esprits.
Oui, dans une région fort heureusement déserte, qui a couché les arbres sur à peu près plusieurs centaines de kilomètres, qui a déclenché un feu de forêt terrifiant. Il y avait quand même des gens à quelques dizaines de kilomètres qui ont... Il n'y a pas eu de mort, mais ils ont senti une vague de chaleur absolument épouvantable. Les gens croyaient qu'ils étaient en feu.
Même à plus de 60 km.
À plus de 60 km, oui.
Et en même temps, les scientifiques n'y ont sur place qu'en 1921.
Oui, alors pourquoi ? Ben parce que la Russie avait des gros problèmes à cette époque-là, et puis il y a eu une révolution. Et donc, les gens n'ont pas eu le temps d'aller voir. Et c'est pour ça que l'expédition a eu lieu beaucoup plus tard. Alors que la nature avait déjà eu en partie le temps de se reformer. Et à cette époque-là, les explorateurs ont été très étonnés de ne pas trouver de cratère. Alors, pour le fait qu'il n'y ait pas forcément de cratère, comme ça, il y a eu plein d'explications avancées, dont certaines qui maintenant passent pour farfelues. Par exemple, des gens avaient pensé que ça pouvait être un nuage d'antimatière qui était arrivé sur Terre, enfin des choses comme ça. Mais depuis les années 80-90, on a fait beaucoup de progrès dans la compréhension de ces collisions. Alors en fait, il faut comprendre qu'une collision avec un objet venu de l'espace, c'est pas comme quand on jette un caillou ou une bille dans du sable. Quand on jette un caillou ou une bille dans une sable, on fait un cône d'éjection, c'est-à-dire on fait un petit trou, il y a le sable qui se pousse et la bille qui reste au fond. Quand un caillou arrive de l'espace, il arrive extrêmement vite, à peu près à 100 fois la vitesse du son, et il traverse l'atmosphère en une seconde. Et comme il va beaucoup plus vite que le son, il y a une angle de choc qui se développe et qui se développe dès qu'il rentre dans l'atmosphère, parfois avant qu'il touche la Terre. Cette onde de choc va se propager dans le rocher et créer une pression, c'est une onde de pression et de chaleur qui va vaporiser le rocher. Alors un rocher comme Tunguska a dû se vaporiser entièrement en à peu près un centième de seconde. Donc l'explosion a eu lieu dans l'atmosphère avant qu'il y ait eu un contact avec le sol.
Mais on doit pouvoir retrouver des débris quand même, des traces de ça. Alors qui retombent, non ?
Oui, on a retrouvé des petites billes de pierre vitrifiée. Donc, ce qui était bien la preuve qu'il y avait eu une explosion de la matière liquéfiée. Mais en fait, la plupart de la matière n'a pas été liquéfiée, elle a été vaporisée. Quand la pierre est plus grosse, quand elle a un kilomètre de diamètre à peu près, là, elle fait un cratère, comme par exemple le cratère qui est en Arizona, qui s'appelle Meteor Crater, et qui fait un kilomètre de diamètre. Alors, ce genre de phénomène arrive, aux échelles historiques, c'est rare. Un événement comme Tunguska, on pense que ça se produit à peu près tous les siècles. Des événements qui feraient un cratère de quelques kilomètres, c'est beaucoup plus rare. Celui d'Arizona date d'il y a quelques dizaines de milliers d'années. Et puis enfin, il peut y avoir des gros objets qui font plusieurs kilomètres, comme celui dont on parlait tout à l'heure, qui a mis fin à l'ère du Crétacé, qui devait faire une quinzaine de kilomètres. Donc celui-là, le dernier, est tombé il y a 65 millions d'années. Alors, c'est pas seulement pour l'étude du passé que ces choses-là sont intéressantes, parce que ces causes possibles de drames, d'événements qui ont une échelle planétaire, existent toujours. C'est-à-dire qu'elles sont toujours aussi rares qu'elles l'étaient d'ailleurs il y a 65 millions d'années, mais il y a toujours des cailloux qui se promènent dans l'espace. Des comètes, il y en a à peu près une vingtaine nouvelles qui arrivent dans les parages des planètes tous les ans. Donc voilà, c'est un danger extrêmement faible, mais qui existe autant qu'il existait par le passé.
Et qu'on ne peut pas prévoir ou anticiper par l'observation aujourd'hui avec la technologie de pointe ?
Alors, on observe beaucoup. Les astronomes tiennent à jour des bases de données de tous les petits objets du système solaire qu'ils observent et calculent leur trajectoire. Alors avec les ordinateurs, on peut faire ça d'une façon quasi automatique, mais il faut quand même faire des observations pour affiner la connaissance de ces orbites. Donc c'est un travail en fait dans la continuité. Et il y a à peu près 2-3 000 objets dont l'orbite est susceptible de croiser l'orbite de la Terre à une période inconnue, hein, c'est une possibilité. Alors ceux-là sont suivis
de près. Oui, dites bien à une période inconnue, parce qu'on va avoir beaucoup de mails sinon.
Voilà, donc pour le moment, il n'y a aucun objet qui ait une trajectoire, aucun objet connu qui ait une trajectoire de collision. Alors il y en a un qui passera près de la Terre en... J'ai oublié l'année. Enfin, bientôt.
Vous nous le direz plus tard, on le mettra sur notre site.
Oui, en 2029. Il passera à 30 000 km de la Terre.
2029, ouais. D'accord. Vous allez à nouveau créer un phénomène d'angoisse après celui de 2012-2029.
C'est déjà parti. D'accord. C'est déjà en route sur les sites internet. Et voilà. Donc oui, ce sont des dangers qui sont observés. Cela dit, on ne peut pas observer tout le ciel, en particulier tous les rochers qui se promènent du même côté que le Soleil et qui s'arrangent pour être un petit peu à l'opposé de la Terre la plupart du temps, sont difficiles à observer. Et ainsi, il y a quelques années, il y a un rocher de quelques dizaines de mètres qui est passé entre la Terre et la Lune et on s'en est rendu compte 3 jours après. Bon, ça n'aurait pas fait une catastrophe planétaire, ça aurait fait quelque chose d'assez grave si c'était tombé dans une zone habitée, mais c'était pas...
Ce ne fut pas le cas.
Ce ne fut pas le cas.
Claude Babin, finalement, on a répertorié 2000 astroblèmes, donc 2000 traces de ces impacts, dont un en France, j'ai noté, à Rochechouart, en Haute-Vienne, oui. 23 km de diamètre, et un impact qui aurait eu lieu il y a 160 millions d'années environ. Mais il y a un tournant plus proche de nous qui a été décisif, c'est en 1980, avec ce que vous appelez la météorite tueuse de dinosaures. Racontez-nous ce qui s'est passé.
Ah ben c'est ce dont je parlais en début de, d'émission, où je faisais allusion, je veux dire. Ça a été la découverte, finalement, à Gubbio, en Italie, au passage, dans les sédiments, au passage de l'ère secondaire crétacé avec le tertiaire, d'une petite couche d'argile qui contient énormément d'iridium. Ce fut la preuve pour les gens qui s'occupaient de cette couche-là qu'il y avait eu impact d'une météorite à ce passage secondaire-tertiaire. Et comme cela coïncidait avec la disparition des dinosaures, immédiatement, bien sûr, on a sauté sur l'occasion pour expliquer par cet impact météoritique, expliquer la disparition des dinosaures. C'est une crise d'ailleurs qui n'a pas concerné que les dinosaures. On parle toujours dinosaures parce que ce sont les choses spectaculaires, mais il y avait beaucoup d'autres organismes qui ont disparu. Ce fut une grande crise, que cette crise de la fin du Crétacé, il y a 65 millions d'années, il y avait dans les mers notamment les ammonites qui ont disparu. Je parle ammonites parce que je sais que beaucoup d'éditeurs connaissent ces fossiles, beaucoup les collectionnent, et ce sont là aussi, ce sont des mollusques qui ont disparu brutalement au même moment que les dinosaures. Alors le problème est compliqué parce que entre spécialistes, il est difficile de démontrer de façon précise que ces disparitions coïncident exactement dans le temps avec cette couche d'iridium, avec ce passage qui lui a été extrêmement précis dans le temps. On est à 65 millions d'années, plus ou moins 1 million, quelquefois plus ou moins 2 millions, cela dépend des groupes que l'on étudie. Les dinosaures, par exemple, pour certains auteurs, avaient commencé à sérieusement décliner, voire à disparaître juste avant l'impact. Pour d'autres, ils ont survécu à l'impact. Vous voyez que c'est quelque chose d'extrêmement difficile lorsque on se promène en géologie entre différents points de la planète pour avoir des précisions de temps qui soient à quelques dizaines ou centaines d'années près. C'est quasiment impossible. On parle en millions d'années, et si l'on parle en millions d'années, c'est que l'on ne sait pas précisément, pour les temps anciens, aller beaucoup au-delà. On parle maintenant quelquefois de 200 000 ans, 300 000 ans, mais il est difficile de dater précisément les terrains.
Fabrice Mottez.
Alors peut-être certains...
Donc sur cette histoire-là, il faut rappeler que la découverte avait été faite en Italie et par le géologue Walter Alvarez. Son père était le célèbre physicien qui a été prix Nobel en 1968, si je ne m'abuse. Et deux chimistes, Franck Alvaro et Hélène Michel, avaient travaillé donc sur la teneur en iridium.
Alors, certains auditeurs vont peut-être se demander comment ça se fait qu'un météorite qui tombe quelque part au Mexique et fait un cratère de 300 km va mettre fin aux dinosaures qui vivent en Asie, en Europe, etc. Eh bien, pour qu'un tel événement prenne une ampleur planétaire, eh bien, c'est pas le tremblement du sol ou même le tsunami provoqué, parce qu'il y en a eu un, le tsunami provoqué par la collision qui a mis fin à toute cette vie, c'est l'impact climatique. C'est-à-dire que quand cet objet a percuté la Terre, eh bien, en fait, bon, déjà, lui s'est vaporisé. Donc, ça fait 50 km, une boule de 50 km de diamètre qui se vaporise, ça fait beaucoup de poussière. Elle a touché le sol, elle a fait un cratère qui a dû faire à peu près 40 km de profondeur, ça veut dire qu'elle a traversé toute la croûte et a atteint le magma. À ce moment-là, donc, c'était un mélange de gaz brûlant, de liquide, et toute cette matière, ça représente des milliers de kilomètres cubes de matière, s'est retrouvée vaporisée. Donc ça a été une sorte d'explosion. Si vous vous représentez un champignon d'explosion, le champignon était plus haut que l'atmosphère. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'objets qui ont été projetés, qui sont mis en orbite autour de la Terre et qui ont mis des années sans doute à tomber. Alors pendant l'explosion, ça a été cataclysmique sur place, mais sur tout le continent américain, les retombées de matière chaude, ce qui n'avait pas été vaporisé, ou bien ce qui s'est recondensé en gouttes très chaudes, a mis le feu. Et à ce moment-là, la nature était couverte de forêts. Toutes les forêts d'Amérique ont pris feu. Ça a soulevé énormément de fumée, de suie, dont on a retrouvé des traces dans les couches sédimentaires comme celle de Gubbio en Italie.
Et d'où un écran aussi avec le soleil.
Voilà, alors ce qui s'est passé. Alors, c'est intéressant de voir que les premiers indices ont été à Gubbio, et c'était donc des indices de choses qui ont été véhiculées par l'atmosphère. L'iridium venait du bolide. On a retrouvé la suie qui venait des feux de forêt avoisinants. Et en fait, cette suie a fait un écran de fumée, si bien qu'en fait, sur Terre, il faisait nuit. Il faisait nuit et on pense que les animaux sont morts de manque de lumière. Ça veut dire en fait les plantes ne pouvaient plus faire de photosynthèse, elles sont mortes. Et les animaux qui s'en nourrissaient sont morts de faim. Et apparemment, alors je ne sais pas si c'est vrai, j'ai entendu dire, enfin je le raconte en tout cas, que des animaux, finalement les seuls grands animaux qui ont bien survécu à cette époque-là, alors on pense aux crocodiles, aux tortues, c'était des animaux qui vivaient dans les rivières où les pluies amenaient en fait beaucoup de matière morte. Et c'était des animaux qui pouvaient manger de la matière en décomposition, là où elle s'accumulait, ça veut dire dans les rivières. Voilà, donc c'est comme ça qu'un événement peut devenir global. Et ce qui est encore pire avec cette collision, c'est qu'elle est tombée sur une zone calcaire, où le sol était calcaire, et quand le calcaire est comprimé, il libère des quantités faramineuses de gaz carbonique. Si bien que dans les années qui ont suivi cette explosion, il y a eu un effet de serre terriblement accru, et une vague de chaleur, ou avec une élévation de température, sans doute d'une dizaine de degrés, enfin là je me risque un petit peu, mais enfin très forte. Et donc un froid et chaud, froid avec la nuit et ensuite la chaleur, ça c'est terrible pour les êtres vivants. Et quand on envisage d'autres scénarios comme les volcans, une explosion d'étoiles, ce sont toujours des phénomènes atmosphériques qui transportent un événement qui finalement est local à l'échelle globale de la planète.
Donc différentes causes. Claude Babin, finalement, on s'est projeté dans ces différents scénarios de fin du monde. On s'appuie sur, effectivement, soit le danger venu du ciel ou d'autres hypothèses. En 1971, un paléontologue américain, Dale Russell, et le physicien américain Wallace Tucker pensent qu'une supernova, une explosion d'étoiles, pourrait causer la fin de notre espèce. On a, dans les années 60, il faut rappeler que des mathématiciens de l'université de l'Illinois ont tiré la sonnette d'alarme à propos d'un accroissement démographique, prévoyant pour 2026 11 milliards de personnes sur la planète, et donc tout cela pouvant entraîner un étouffement général. Et donc on avait imaginé convoquer un peu des états généraux mondiaux pour s'intéresser à cette solution et donc réduire la natalité. Est-ce que, quand on se projette dans cet avenir, que l'on pense que dans 5 milliards d'années, le Soleil devrait devenir une planète rouge, hein, et donc s'éteindre, est-ce que le danger ne viendrait pas plus tôt pour la planète de l'homme ?
Oh ben évidemment, c'est ce que l'on peut penser, c'est ce que je pense d'ailleurs personnellement. Ce ne sera pas la fin du monde, ce sera quelque chose qui pourrait être la fin de l'humanité, ou tout au moins une grande crise dans la vie de l'humanité, dans le déroulement de l'humanité. C'est d'ailleurs ce à quoi faisait allusion tout à l'heure Fabrice Nottez en commençant. Quand on parle fin du monde, parle-t-on fin de la Terre, parle-t-on fin de l'humanité, etc. Et je crois pour ma part qu'effectivement, en soulevant le problème de la natalité, de la démographie, disons, on a quelque chose là qui est extrêmement important. Il y a déjà longtemps que moi, je parle comme ça dans diverses conférences de ce problème démographique de l'humain, j'entends. Parce qu'il est bien évident que plus nous sommes nombreux, plus nous avons de besoins pour nourriture, etc., et plus nous aussi nous polluons. Et c'est tout ceci qui nous conduit peut-être vers quelque chose qu'on ne saura pas résoudre. Je suis d'ailleurs avec un livre récent d'un autre astrophysicien, qui est Jacques Blamont, mais qui écrit beaucoup ces dernières années sur des problèmes plus généraux en dehors de ce qui est astrophysique. Il vient de publier encore un livre qui s'intitule « Lève-toi et marche », dans lequel, justement, son antienne, c'est le développement durable n'est pas durable, et dans lequel il raconte que c'est sous l'angle de la surpopulation. Pourra-t-on nourrir convenablement 9 milliards d'hommes en 2050 qu'il y a un danger qui se précise, semble-t-il, et que l'on constate sans prendre de mesures particulières. On ne sait pas bien lesquelles prendre.
Je vous interromps, Claude Babin, parce que ça va être le mot de la fin, justement. Je rappelle votre ouvrage, aussi très intéressant, au-delà de celui de Blamont, bien sûr, c'est « Autour du catastrophisme ». Merci d'avoir été avec nous depuis les studios de Radio France à Lyon, un livre édité chez Vuibert. Et puis Fabrice Mottez, merci également à vous. Je rappelle le livre écrit avec Didier Jamais, il ne faut pas l'oublier, 2012, Scénario pour une fin du monde, paru chez Belin à l'automne 2009. Et puis tout de suite, seconde partie de la Marche des sciences. Et j'accueille dans ce studio de France Culture en direct Jacques Glowinski. Bonjour.
Bonjour.
Pour vous présenter, je me suis dit que vous étiez un des pères de nombreuses disciplines, mais un des pères de la neuropharmacologie, ça il faut le rappeler, professeur honoraire au Collège de France, administrateur, et je suis d'autant plus heureuse de vous accueillir dans nos studios de France Culture, parce que nous sommes là aussi pour parler d'une naissance, celle d'une collection portée par le Collège de France. Alors dites-nous un peu plus de quoi s'agit-il ?
Eh bien, lorsque j'étais administrateur du Collège de France, au bout de deux années, vers 2002 environ, j'étais très attaché, si vous voulez, au patrimoine du Collège. Pas uniquement le patrimoine, disons, immobilier, puisqu'on a lancé à ce moment-là un grand projet de rénovation du Collège de France, mais aussi le patrimoine culturel et intellectuel. Et au cours d'une assemblée des professeurs du Collège de France, Pierre-Gilles de Gênes, qui va d'ailleurs être présenté l'un des premiers dans cette collection, eu l'idée de dire qu'il faudrait peut-être faire des archives audiovisuelles du Collège de France, et notamment des professeurs, puisqu'il serait peut-être intéressant, à un moment donné, de les voir exposer leur parcours personnel, professionnel, leur vision de ce qu'ils avaient appris au cours de leur long séjour, plus ou moins long d'ailleurs, dans l'institution, et surtout d'avoir un aperçu de leur regard sur le monde, puisqu'ils ont la plupart du temps une certaine expérience et un recul qui est très intéressant. Et nous avons commencé ce projet. J'avais eu la chance de rencontrer Ramdan Issad, qui était un réalisateur et qui avait fait un film sur le cerveau avec lui. Et je l'ai revu, il m'a orienté vers un producteur, Jean-Marc Robert, qui travaille avec Sylvie Bard, et une société, et nous avons conclu un accord. C'était la convention entre le Collège de France et MVC. Et nous avons trouvé les moyens de financement de ce genre d'opération. La Fondation Hugo du Collège de France y a contribué, MBC également. Et à ce moment-là, j'ai demandé à Pierre Bourdieu, qui était toujours parmi nous et professeur au Collège de France, de, si vous voulez, s'intéresser à ce projet. Alors, il avait imaginé de faire une grille bien particulière d'entretiens. Les entretiens devaient être de plusieurs heures. Et il devait y avoir un scribe de tous ces entretiens pour peut-être faire un livre plus tard d'une histoire du collège vue d'une autre façon que l'histoire habituelle qui est faite par les historiens. Et nous avons commencé comme ça. Il y a eu d'abord six entretiens de 4 heures chacun. Et puis ensuite, ça s'est poursuivi par grâce à Jean-Marc Robert qui a rencontré le directeur de la chaîne Histoire. Et il y a eu une série de 6 entretiens de 4 heures qui ont été diffusés par la chaîne Histoire. Et puis, on s'est rendu compte que peut-être 4 heures, c'était trop long. Et on a réduit ça à 52 minutes. Et il y a eu ensuite 19 entretiens qui se sont poursuivis après, si vous voulez, mon mandat d'administrateur, mes deux mandats d'administrateur en 2006. Et mon successeur, Pierre Corbol, a continué ce projet pendant un certain temps. Voici l'histoire de ce projet des archives audiovisuelles du Collège de France.
Et donc les quatre premiers DVD offerts au public depuis 2 jours d'ailleurs, c'est tout récent. Donc c'est le parcours de Jacqueline de Romilly, François Jacob, Pierre-Gilles de Gênes et Pierre Boulez. Et avant d'aller plus loin avec vous, Jacques Lovinsky, je vous propose d'écouter des morceaux choisis de ces entretiens. Pierre-Gilles de Gênes et Jacqueline de Romilly.
Moi, j'ai eu la chance d'avoir des profs, une fois que je suis entré dans le système collège-lycée, qui étaient véritablement des maîtres. Et à ce moment-là, on se régalait de ce qu'ils nous découvraient. Qu'il s'agisse, j'avais un prof de français qui était un ancien archéologue, qu'il s'agisse de civilisation passée ou qu'il s'agisse de science. Et moi, je me régalais aussi bien dans l'un que dans l'autre. Le contingent de profs de cette époque était d'un niveau tel que maintenant, ils seraient dans des universités. Ils n'auraient plus affaire à des petits lycéens comme ça.
On s'imagine toujours que les professeurs, en général et hors du collège, répètent tous les ans la même chose. Ça n'est pas vrai. Les programmes changent, on découvre les auteurs. Alors, au cours, la difficulté et l'amusement, c'est qu'on a aussi bien dans le public 2 collègues étrangers de passage, un homme qui travaille au chemin de fer, des dames qui n'ont aucune idée. C'est assez dur de trouver une chose qui soit à la fois exacte scientifiquement et représentant un certain progrès, mais en même temps accessible.
Et voilà la preuve parfaite, Jacques Glowinski, que dans ces entretiens, on découvre à livre ouvert, j'avais envie de dire, parce que vous disiez que finalement, il y avait aussi le projet de faire un livre à un moment, mais en tout cas, à cœur ouvert, à la fois les parcours humains depuis l'enfance, et puis les premiers diplômes, et puis les premières places, la recherche, et l'œuvre au sein du Collège de France. Donc, ce sont des DVD avec une dimension totalement patrimoniale.
Oui, dans le sens que on découvre à la fois des, bien sûr, on redécouvre des personnalités, c'est-à-dire on les redécouvre d'une autre façon. Et j'ai revu bien sûr certains de ces DVD. Et par exemple, si je parle de Pierre-Gilles de Gênes ou bien de François Jacob que je connaissais mieux, et bien c'est tout à fait étonnant de découvrir des personnages dont on n'avait pas entendu parler lorsqu'on les a rencontrés, si vous voulez. Par exemple, si je prends François Jacob, que je connais bien, eh bien de voir en fait comment il a commencé à faire de la recherche parce qu'il y a eu la guerre, il voulait être chirurgien, ça n'a pas pu marcher. Et il est parti, comme tout le monde sait, il a eu une guerre, il a été blessé à plusieurs reprises. Enfin, c'était un homme assez extraordinaire à cette époque. Et après, quel parcours inouï. J'étais à Pasteur moi-même, au moment où il y avait Jacques Monod et François Jacob et Lvov. Et je me souviens, j'étais dans un laboratoire qui était à côté. Et il y avait une effervescence extraordinaire dans ce laboratoire avec beaucoup, beaucoup de chercheurs étrangers. C'était le moment véritablement où on allait percer le mystère de la vie, en fait. Et c'était absolument extraordinaire. Et en fait, les discussions entre Monod et Jacob sont restées tout à fait célèbres. Donc c'est vraiment des moments inouïs. Et les voir retracer, revivre comme ça par leurs auteurs, qui sont des acteurs si importants de l'évolution de la science pendant ces dernières années, c'est assez extraordinaire. Voir aussi Boulez, par exemple, parler des difficultés qu'il a eues en France à ses débuts, et comment finalement il a reçu un coup de téléphone du président Pompidou, qui lui a demandé de devenir le directeur de l'IRCAM, et que c'est aussi à ce moment-là, un peu plus tard, qu'il est devenu professeur au Collège de France, et il est resté pendant de longues années.
D'où l'intérêt de cette collection. Donc les quatre premiers DVD sont en vente depuis deux jours. La collection s'appelle La mémoire du Collège de France, éditée par les éditions Montparnasse. Il faut préciser que chaque DVD coûte 15 euros, mais c'est très peu par rapport à cette richesse de paroles et de témoignages que vous nous offrez dans cette collection. Merci beaucoup Jacques Glowinski d'être venu nous en parler aujourd'hui au micro de Radio France. Merci. Et c'est la fin de la Marche des Sciences. Vous pouvez bien sûr réécouter l'émission pendant un mois, la podcaster pendant une semaine en vous rendant sur le site www.franceculture.com, rubrique émission La Marche des Sciences. Et merci à toute l'équipe, le comédien Emmanuel Lemire, Solène Saleur, attachée de production, Florence D'Artois, Marie Jarros, documentaliste de l'INA. Julie Béressy était à la réalisation, à la technique, Florent Layani à Paris. Et puis pour Radio France Lyon, c'était Claire Vuillot-Morel qui officiait aux manettes. La semaine prochaine, on va vous parler des impostures scientifiques.